Bienvenue chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Bonjour, soyez les bienvenus chez Georges. Bonjour Capucine.
Bonjour.
Bonjour Linda.
Bonjour, vous êtes chez Georges, épisode 5. Une émission écrite et réalisée par les patients et les soignants du centre hospitalier Georges Domaison.
Georges Domaison, c'est un établissement public spécialisé dans la prise en charge de pathologies en santé mentale.
Et aujourd'hui, chez Georges s'est installé dans l'unité Espoir. Espoir, c'est un acronyme qui porte bien son nom. C'est un espace de soins intersectoriels orienté insertion et rétablissement. Bon, pour faire simple, ici, on cherche et on trouve des solutions pour vivre mieux.
Chez Georges, c'est aussi et surtout un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital. Autour d'une rencontre. Aujourd'hui, nous recevons la danseuse et chorégraphe Ambrace Senatore. Bonjour.
Bonjour.
Ambrace Senatore, vous êtes italienne, vous êtes chorégraphe, danseuse, chercheuse, enseignante à l'Université de Milan. Vous êtes aussi docteur, vous avez publié notamment une thèse en 2024 intitulée « Présence scénique et représentation de soi ». Vous avez chorégraphié de nombreuses pièces, dont des propositions jeunesse. Votre travail est joyeux, avec beaucoup d'humour. On vous situe entre Pina Bausch et Buster Keaton. Vous avez aussi beaucoup créé hors des murs, dans l'espace public, au contact direct du public, qui ne franchit pas toujours la porte des salles de spectacle. Car pour vous, la danse, c'est une rencontre, un partage. Aujourd'hui, vous quittez le Centre chorégraphique national de Nantes, après 10 ans quand même. On peut l'applaudir.
Ouais, merci. Je vous applaudis aussi.
Et en guise d'introduction, nous avons une question que nous posons à tous nos invités. Est-ce que vous avez connu des personnes concernées par un trouble psychique et quelle image, quelle représentation en avez-vous?
Ah, alors sûrement j'en ai connu plus de ce que ma conscience en a.
Est-ce que vous avez un a priori ou une image plutôt positive, plutôt négative?
Ah bah non, j'espère, je pense pas avoir d'a priori. Peut-être, si je suis au courant de cette question, j'aurai une attention à être, si je peux, encore plus à l'écoute. Et je suis pas sûre que ça soit bien, parce que du coup ça fait peut-être une petite différence d'approche. Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse.
Plus quelque chose par rapport à vous-même votre posture de bienveillance par rapport à la personne.
Oui, voilà, du coup, peut-être c'est ça. Que le fait d'anticiper qu'il y a une question qui est soi-disant particulière peut peut-être me mettre à dire, j'espère d'être naturelle et de ne pas avoir des modalités un peu crispées et tout ça. Je ne sais pas si ça se comprend.
Si, je comprends.
Okay.
Chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Ambrace Senatore. Chez Georges, il y a une règle, un principe. D'abord, nous allons vous interviewer sur votre carrière et l'approche sensible que vous développez dans votre travail. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va inverser les rôles. Ce sera à vous de jouer l'intervieweuse et de nous poser vos questions. Vous êtes d'accord avec le principe ?
Je suis d'accord.
Ok.
Autour de la table, nous avons donc, pour vous interviewer, nous avons Jeanne, Benjamin et Mélissa qui sont venus nous rejoindre. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Est-ce que vous avez toujours été danseuse ou alors est-ce que c'est une vocation qui a surgi à un moment particulier de votre vie ou de votre parcours?
Alors, j'ai commencé à danser quand j'avais 5 ans. Enfin, je pense que comme tout être humain, j'ai commencé à danser dans le ventre de maman. Mais bon, ça... Mais de manière un peu plus décidée, affirmée, j'avais 5 ans dans le salon de mes parents avec une personne qui habitait avec nous et qui était danseuse, qui était à ce moment-là sans travail. Du coup, elle avait le temps. On bougeait les meubles et on dansait. Puis elle est partie, elle est repartie chez elle plus tard. Et j'ai donc commencé une école. Alors, j'étais pas danseuse, mais j'ai toujours dansé pratiquement tous les jours de ma vie, sans imaginer devenir danseuse. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être mon métier, dans mon souvenir au moins. Et puis ça s'est fait, un moment. Et c'était le seul métier que j'ai fait, en fait. Oui, j'étais serveuse, mais très peu. Ah oui, prof à l'université, ça j'ai oublié. J'avais ça, oui. Mais ça, pour moi, c'était prof danseuse quand même. J'étais danseuse qui parlait aux étudiants.
Ce week-end, vous jouez In Comune à Mixte, l'ancien Grand T à Nantes. Beaucoup de titres de vos œuvres sont en italien. Qu'est-ce qu'il y a d'italien dans votre travail?
Il y a moi et d'autres interprètes. Les titres, c'est drôle parce que c'est pas moi qui voudrais les nommer tous en italien. J'ai vraiment du mal à trouver les titres. Alors c'est un cauchemar pour toute l'équipe. Des mois, des nuits blanches sans trouver les titres, c'est même vraiment exagéré. Et finalement, c'est souvent les autres qui me poussent à garder les versions italiennes. Bon, pour des raisons différentes, on ne va pas perdre le temps là pour le dire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a d'italien ? Apparemment, pour certains spectateurs et spectatrices, il y a quelque chose de très vivant et d'un peu ironique. Mais ce n'est pas que italien, j'imagine. Mais c'est vrai que ça fait partie, effectivement, un peu de notre culture, d'avoir un décalage qui se moque de soi-même aussi. On se moque un peu de nous-mêmes. Ce n'est pas se moquer des autres, mais c'est... Nous, on fait partie des autres, on est les autres. Donc il y a peut-être ça, je dirais, et une grande vitalité bon, qu'on peut retrouver ailleurs aussi. Hein. Il y a toujours un peu de nourriture, un peu dans les pièces. Il y a toujours quelque chose à manger. Ça, c'est très italien aussi.
Moi, je suis Nicolas, je suis danseur, actuellement en formation. J'ai également des soucis du côté de la santé mentale. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de certaines pratiques et influences artistiques qui, si on ne les prend pas de la bonne façon, peuvent nuire à la santé mentale et à l'être en général. Premièrement, on peut être influencé par des images, notamment à la télé, lorsqu'on voit un artiste être valorisé pour des côtés sombres. Mais moi personnellement, Nicolas, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être Nicolas et j'ai besoin d'être moi. On peut aussi être encouragé par certaines personnes qui, sous prétexte de l'art, nous ont encouragé dans des émotions qui ne sont pas très positives, comme par exemple la tristesse, la colère ou la peur. Pour ma part, on m'a demandé de jouer des colères qui n'étaient pas les miennes, d'humilier des personnes, de cracher sur des choses avec orgueil, d'être pervers, d'avoir peur, de se complaire. On m'a fait penser des façons de penser sombres qui n'étaient pas les miennes. On m'a dit des phrases comme « La drague, c'est juste pour le score. » Lol, comme si c'était un numéro. Vous voulez que je sois haineux, orgueilleux, cupide, pervers. Mais tout ça, c'est pas moi. C'est un personnage. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être Nicolas. Et vous, Ambra, avez-vous déjà été confronté à des personnages ou des émotions qu'on vous a demandé de jouer, d'interpréter? Et comment avez-vous fait pour vous protéger, vous et ou vos équipes?
Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en vous écoutant, j'étais très troublée et je connais ces dérives possibles qui pour moi n'ont rien à voir avec l'art et n'ont rien à voir avec l'humain qui doit pour moi être dans l'art et dans toute question humaine. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir malheureusement voilà, la personne qui guide qui a une vraie responsabilité. Ces personnes qui guident peuvent concevoir ça comme un rôle de pouvoir. Pour moi, je n'ai jamais vécu le fait de guider un groupe comme un rôle de pouvoir. Mais bien sûr, de responsabilité, oui, parce que tu convoques ces personnes. Tu as le rôle de proposer comment faire face aux journées de travail. C'est toi qui les invites autour d'un propos. Et donc, cette responsabilité, ça comporte du respect pour l'humain. Donc, pour moi, avant le résultat artistique, il y a tout de suite, c'est les relations propres au sens de nettoyer, des relations saines. Et c'est essayer d'être à l'écoute, de faire des propositions qui peuvent rentrer en résonance avec du possible de l'autre, sans jamais blesser. Mmh. Après, on traverse des moments très, très intenses et très intimes en création, dans le processus. Et on touche à des questions intimes profondes, parce que des fois, on traverse aussi des choses importantes et qui sont dures, parce que la vie est ça aussi, il y a aussi des choses dures. Et je pense que ce qui est très important, c'est créer un groupe au sein duquel il y a à la base voilà, ce grand respect. Et du coup, si à un moment on touche à quelque chose qui est dérangeant pour quelqu'un, qu'on ait la capacité ensemble de le sentir et d'adresser les choses pour que ça soit pas. C'est pas l'artistique qui est devant, c'est pas la réussite de la pièce, c'est les êtres qui font partie du groupe. Très très important.
En préparant cette émission, on s'est demandé ce qui nous donnait envie de danser. Et moi, c'est cette chanson.
Pata Pata de Myriam Makeba, c'est ça, la chanson qui fait danser chez Georges. Et vous, Ambra, qu'est-ce qui met votre corps en mouvement?
Bien sûr, la musique a une grande force, mais si je dois répondre, c'est encore une fois la relation. Moi, c'est vraiment ça, la relation aux autres et un espace et un temps qui est partagé avec les autres. C'est ça qui met en mouvement. Et ces autres, c'est les autres présents et présente, donc les collègues, les spectateurs et spectatrices qui sont là quand on performe, mais aussi d'autres qui ne sont pas là physiquement, mais qui l'ont été, des personnes qui nous ont traversées, des personnes proches, mais aussi des personnes dont on peut avoir lu, qui sont ailleurs, qui sont encore vivantes ou pas. C'est, moi, je sens que c'est ça. Et pour être mise en mouvement, c'est pas via la tête, mais tout passe. Bon, mais ça, c'est compliqué à dire. C'est un ensemble de la personne, tête, esprit, souvenir, projection. Et c'est ça qui met en mouvement le corps entier dans sa globalité d'être humain.
On a remarqué que dans vos pièces, vous n'utilisez pas que de la musique au sens mélodique du terme. Vous travaillez aussi à partir de sons, du réel, des bruitages. Qu'est-ce qui est à l'origine, à la base, lorsque vous créez? Est-ce que c'est d'abord le sonore ou d'abord le mouvement?
Le sonore arrive vraiment plus tard. Et il est très présent, et comme vous avez justement remarqué, parce que des fois, c'est ma maman surtout qui me dit « Oh, mais alors tout ce silence ?» Je dis « Maman, mais c'est pas du silence, il y a plein de bruit !» Comme dans la vie, t'as pas tout le temps de la musique. Voilà. Donc pour répondre, on travaille beaucoup dans le silence, même pour certains collègues qui répètent avec moi, des fois je sens bien qu'il faut aller un peu de musique, ça soulage. Mais simplement parce que je trouve que la musique a tellement de puissance et de force, qui forcément, si tu la mets, bah, c'est elle qui va t'amener à certains... mouvement, elle va t'inspirer. Ce qui est super, hein, j'ai rien contre absolument, et c'était même très agréable, mais j'ai envie justement de faire confiance au corps et à la relation, donc d'avoir ça comme base pour que les choses surgissent, la relation, les corps ensemble. Et après, la musique arrive, bien sûr. Et depuis quelque temps, je collabore avec quelqu'un qui s'appelle Jonathan Selman, qui apporte vraiment beaucoup dans notre travail en commun, et on ne danse jamais sur la musique. Elle nous accompagne, comme dans les films. C'est pas que le comédien, l'acteur marche sur musique ou fait les gestes. Ça s'accompagne, c'est deux couches qui se superposent.
Chez Georges.
Chez Georges.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Vous êtes chez Georges, en compagnie de danseuse et chorégraphe. Embrassez-la toi et... Ouais. Nous avons ensemble évoqué la musique. Maintenant, parlons du corps. Et c'est Jeanne qui va vous en parler.
Je me pose une question ces derniers temps. Est-ce que ça se voit physiquement que l'on est concerné par un trouble ou de la souffrance psychique? J'aimerais vous parler du corps en psychiatrie, souvent oublié, meurtri, contenu. Et pourtant, les personnes concernées par un trouble ou de la souffrance psychique ne sont pas épargnées des bobos physiques petits et grands. Mon expérience, c'est que j'ai pris beaucoup de poids avec les traitements, que j'ai eu un dérèglement hormonal, une baisse de désir. Et cette déformation du corps m'a vraiment coûté, en fringues, en désamour de moi-même et en perte d'énergie globale. Tout n'est pas dû au traitement, mais tout n'est pas dû à la souffrance psychique. Il faut supporter les effets secondaires. D'autres personnes ont des troubles du comportement alimentaire, d'autres encore se scarifient, d'autres ont des impatiences, des tremblements, la voix qui ralentit. Le corps parle du mal de vivre, comme le chantait Barbara. Cela questionne nos hygiènes de vie, le sommeil, l'alimentation, la relaxation et le sport. Souvent, on supporte beaucoup d'injonctions autour de ces sujets. Ô combien c'est nécessaire de prendre soin de soi ou de laisser les autres prendre soin de nous lorsque l'on ne peut plus. Il y a une nécessité à retrouver de l'unité entre corps, âme et esprit pour plus de joie et d'apaisement. Comment traitons-nous nos corps? Comment je traite mon corps? Et une question pour vous en bras, vous dites que tout est corps. Auriez-vous des suggestions pour redonner à ce corps une place, une valeur?
Je souhaiterais les avoir. Je pense qu'il faut de l'acceptation, mais au niveau global. Donc c'est un peu utopique peut-être, vu comment le monde avance. Mais c'est quelque chose à travailler. Je pense qu'il faut travailler dès l'enfance, là où on peut, avec les enfants, nous les adultes. Mais je n'ai pas vraiment la recette. On est des corps. C'est comme ça qu'on est au monde. C'est notre corps qui rentre en relation. Que ça soit un corps très efficace, très fort, que ça soit un corps qui manque des parties, que ça soit un corps qui est en souffrance par moment, parce qu'il y a aussi des moments qui en souffrent. Mais c'est ça qui est notre réalité, c'est d'être des corps et d'être en relation avec des autres corps. Donc il faut faire avec ça, de toute manière. Comment le faire, je ne sais pas. C'est sûr qu'avec la danse qui met le corps au centre, et c'est pour moi ce qui est important, par exemple, en danse, le peu qu'on peut faire, tu vois, chacun dans son rôle, je disais, ben nous, avec la danse, ce qu'on peut faire, c'est surtout pas offrir un modèle de danseur ou danseuse comme ça l'était par le passé, d'une parfaite ligne, ça ne nous intéresse pas. Mais de prendre du réel, de ce que chacune, chacun nous sommes et que tout le monde peut danser. Et là, pour moi, c'est ça, de valoriser comment les différences sont hyper précieuses et que c'est tellement beau et riche d'avoir des corps, des idées aussi, des parcours, des chemins, des désirs différents. Voilà, je ne sais pas si j'ai la réponse. Et quand je vous entendais, Jeanne parlait au début, c'est vrai que les corps parlent aussi. Moi, je suis des fois Les gens me disent, mais si, tu sais, ce coin de rue, il y a ce magasin. Enfin, moi, je ne le vois pas, les magasins. Voilà. Et plein d'autres choses, je ne vois pas. Et par contre, je peux être très touchée par des postures, des mouvements, des expressions. Ça m'interpelle. Je regarde les corps et les corps nous parlent. Le problème, c'est qu'ils nous parlent, mais ce n'est pas un langage forcément avec signification reliée, tu vois. Donc, ils nous parlent, mais des fois, on ne sait pas interpréter. Mais qu'encore une fois, bah, c'est accepté et, ouais, et pas jugé. Le jugement est humain, il est toujours là, mais il ne doit pas empêcher de rentrer en relation.
Bienvenue chez Georges.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Maintenant, place à un sujet important. Les ressources. Elles sont comme les fondations d'une maison, nécessaires pour que tout ne s'effondre pas. Elles sécurisent au quotidien.
D'abord, le souffle. En psychiatrie, on invite souvent à prendre conscience de sa respiration. On propose des temps de méditation, de relaxation. On encourage un lâcher-prise. Ensuite, le corps à corps avec l'instrument. Il colle au thorax, pèse, résiste. Il faut accepter son poids, son encombrement. Si je me crispe, il se ferme. Et si je force, il se rebiffe. Il m'oblige à trouver une juste place, deux bretelles, et me voilà en accord. Le bien-être tient souvent à peu de choses. Trois temps d'une valse. Une vibration contre la poitrine. Un rire quand une fausse note me surprend. Le bien-être est propre à chacun et se nourrit au quotidien.
Le travail du développement personnel et spirituel. Envoyer de l'amour inconditionnel et universel à soi-même et aux autres.
Écrire des poèmes.
M'amuser en dansant.
Un suivi médical de qualité.
Se réconcilier avec sa famille et son père.
Ranger et lister pour me rassurer.
Marcher sur de beaux sentiers.
L'amour de ma famille, mes amis.
Respecter le rythme naturel de la vie, de l'amour, de la nature, du soleil et de la lune.
Jouer à des jeux de société.
Jouer avec mon neveu.
Lire pour souffler.
Les thérapeutes holistiques, tels que la kinésiologie, les énergéticiens ou encore les thérapeutes Line Quartz.
Regarder des séries abrutissantes.
Rire à gorge déployée.
Marcher pour lutter contre l'abîme.
Écrire des scénarios, faire des scénarios où on décharge des émotions négatives dedans.
L'humour encore et toujours.
Chanter à tue-tête.
Marcher, observer, respirer, partager, rire et danser. Autant de fils qui tissent notre sérénité.
Comme un hommage à vos origines embrassénatore, Linda nous a joué une valse italienne issue du Piémont de Sergio Berardo, intitulée Aïsoun, qui signifie « bien-être » en patois occitan.
Merci. Mais oui, c'est du travail ça. Très belle, merci. Aïsoun, le patois qui se parle, oui, dans des vallées italiennes et bien au-delà dans des vallées en France, donc ça nous réunit. Merci beaucoup.
Et vous, embrassénatore, qu'est-ce qui vous nourrit, vous ressource et vous permet d'être là dans l'instant présent?
Vous, là. les autres, vraiment.
C'est ça. Moi, parler, je pourrais passer des heures et des heures à parler dans les trains, même avec des personnes que je ne connais pas. On se raconte. C'est un peu toujours oui. Ça. J'aime bien partager des temps de nourriture ensemble, faire la cuisine ensemble et puis manger ensemble. Voilà, j'ai une réponse un peu courte. Comme ça.
C'est déjà bien. Vous dites que la danse est un langage de l'expérience vécue. Dans le travail de Pina Bausch, il y a une souffrance enfouie. À ce propos, elle évoquait son enfance pendant la guerre. Et vous, comment transformez-vous ces expériences vécues en force créatrice?
Eh, si je le savais, je ferais toujours des bonnes pièces. et vite, alors que c'est pas vite. Je ne sais pas comment, mais c'est un peu comme dans un voyage, je pars avec des envies et peut-être, tu vois, des cartes géographiques du lieu qu'on va visiter, une valise avec peut-être des vêtements qui seraient adaptés, mais après c'est pendant le voyage que tu découvres une ruelle qui t'appelle, des visages qui t'appellent, des gens qui t'indiquent des choses. Donc je n'ai pas la recette du comment, mais c'est vrai qu'encore une fois, il faut du temps. Voilà, ça oui, il faut du temps. Le temps est précieux pour ça, parce que c'est pas hyper rapide, et très souvent le temps nous montre qu'une chose qui était là au début, tu redécouvres à la fin qu'elle était déjà là, mais il a fallu le temps pour qu'elle surgisse comme une fleur qui s'ouvre. Donc je dirais le temps et beaucoup d'applications, beaucoup de confiance. Ouais, il faut de la confiance, et des fois elle n'est pas là, donc il y a des crises. Il faut du temps, de la confiance et du lâcher prise. Ça m'a beaucoup touchée quand vous avez cité ça tout à l'heure. Beaucoup de lâcher prise, ça, c'est des mots clés, vraiment. C'est pas que les mots, c'est une chose qui est clé. Se lâcher, pas bloquer. Et les choses arrivent et on est comme des canaux au pluriel, de quelque chose qui arrive malgré nous. Mais finalement, c'est nous aussi, c'est nous. Mais laisser sortir des choses qui ne sont pas maîtrisées avec la tête. Puis nous, la tête, on l'utilise beaucoup pour le montage des pièces. Mais le lâcher prise, le temps, la confiance et la curiosité, je dirais.
On observe que votre travail est souvent joyeux. Vous faites surgir des scènes d'humour absurde, ça peut faire penser un peu au film de Jacques Tati. Est-ce que c'est une façon pour vous de mettre à distance des choses plus sombres? Ça rebondit un petit peu ce qu'on disait avec Nicolas tout à l'heure.
J'imagine que oui, j'imagine que c'est ça. Et c'est aussi peut-être que c'est comme ça des portes d'entrée possibles pour un public aussi qui n'a pas beaucoup fréquenté la danse. Moi, pour moi, j'aurais envie que mes pièces soient accessibles. Voilà, puis il y a une chose très, très liée à la danse contemporaine que des fois se prend tellement au sérieux et que je me dis, non mais attendez, il y a tellement de soucis sur Terre, tellement de questions hyper importantes, que c'est pas nous le centre, c'est pas notre danse contemporaine, c'est pas nos salles de théâtre. Elles sont importantes et il faut qu'il y ait un service public de la culture, que ce soit des lieux qui s'ouvrent, qui sont pour tout le monde, absolument, je dis pas que... Mais prenons les mesures de là où il y a la gravité, où là il y a des choses importantes, et soyons à côté de ça avec nos interventions. Mais c'est aussi ça peut-être qui des fois m'a amené sur l'humour.
Bienvenue chez Georges.
Chez Georges, 100%
de maison.
De maison.
À table de chez Georges, nous avons Sarah et Perrine qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes respectivement infirmière et psychologue. On va revenir sur vos métiers et le rôle que vous jouez dans l'accompagnement des patients. Mais avant, on va découvrir ce qui se passe derrière les murs de l'unité Espoir. Et c'est Capucine qui va nous faire cette présentation.
Et oui, parce qu'ici, nous sommes à l'extérieur de l'hôpital, dans une unité de soins psychiatriques ambulatoires, donc qui accueille des personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus hospitalisées. Les patients et les patientes qui viennent ici sont accompagnés dans leur rétablissement. Alors, qu'entend-on par rétablissement quand on parle de troubles psychiques? Et j'ai trouvé un début de réponse ici, donc dans l'unité Espoir, auprès de soignantes et de patientes dont vous reconnaîtrez peut-être la voix.
Ce que j'ai compris dans l'idée d'un rétablissement, c'était que je peux vivre avec, en fait. Et je crois aussi que avant de penser ça, je pensais que je préférais mourir que d'être malade. Et il y a un long chemin quand même, enfin en quelques mois, j'ai réussi à voir que c'était juste possible de vivre avec et même d'être heureuse, quoi.
L'unité Espoir, c'est un acronyme Espoir. C'est un espace de soins psychosocial orienté insertion et rétablissement.
Béatrice, cadre de santé.
Donc déjà, rien que l'acronyme dit quand même pas mal de choses sur notre accompagnement. L'objectif de la réhabilitation psychosociale, c'est de permettre aux patients d'accéder à une meilleure qualité de vie. C'est le fait de mieux vivre avec son trouble. Ça s'adresse aux patients qui sont plutôt stabilisés et qui cheminent dans l'acceptation de leur pathologie. Les principes de la réhabilitation psychosociale, c'est de s'appuyer sur les ressources de la personne. Donc on a plusieurs programmes, hein, en fonction des pathologies. On a des programmes d'ETP, donc c'est d'éducation thérapeutique du patient. Ces programmes d'ETP permettent aux patients de mieux connaître la pathologie, de devenir en quelque sorte experts en fait au niveau de leur pathologie. La réhabilitation psychosociale, c'est également des programmes de remédiation cognitive, puisque certaines pathologies en fait ont une incidence sur des troubles de l'attention, sur des biais cognitifs que les personnes peuvent avoir. Donc on a différents programmes de remédiation cognitive. L'unité donc Espoir propose également des accompagnements par notre pédiatrice de santé père, donc ce sont des prises en charge individuelles.
Vous vous demandez peut-être ce qu'est une médiatrice de santé père. C'est un métier peu connu, le terme est apparu en 2012. Et ici, chez Espoir, c'est Linda qui occupe cette fonction.
C'est un long terme pour dire une chose assez simple. Donc moi, je suis concernée par un trouble psychique et je travaille dans l'équipe de soins pour apporter un regard, je dirais, un peu avec le vécu de l'intérieur, quoi. Communément, dans ma pratique, en fait, je fais de la paire aidance, c'est-à-dire que c'est une entraide, du coup, entre personnes concernées par un trouble. J'ai peut-être même envie de partager une petite phrase qui, moi, a fait déclic sur la notion de rétablissement. C'est une phrase de Éléonore Langdon, qui est psychologue et en même temps concernée par une schizophrénie. Et elle dit « Guérir, c'est quelque chose qu'on nous fait. Se rétablir, c'est quelque chose que l'on fait soi-même. » Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça vient aussi traduire ce qu'on travaille à Espoir. C'est la capacité à agir, à reprendre un peu une latitude d'action sur son trouble, à oser se projeter, à retrouver une vie qui nous convient avec une image de soi positive. Et ça, ça veut dire cultiver ses ressources. Donc, dans les entretiens individuels que je propose, il y a vraiment un axe important mis sur le jardinier de soi-même, je dirais. Voilà.
Ici, j'ai trouvé la possibilité de comprendre ce qui m'était arrivé. Et donc, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Pendant des mois, je ne savais pas ce qui m'était arrivé, finalement. Et donc, d'avoir un programme qui permette de bien comprendre ce que c'est, d'être avec d'autres patients qui ont vécu cet épisode, c'était vraiment bénéfique, en fait.
Par exemple, moi j'ai appris à quoi servaient les médicaments qu'on prenait, quelles étaient les molécules, sur quoi elles agissaient, pourquoi on nous les prescrivait. Et je pense que ça permet également aux patients de mieux adhérer à son traitement. Le patient n'est plus un patient, il ne patiente plus, il est actif, il n'est plus passif.
C'est une rencontre entre deux personnes.
Aurélie, infirmière.
C'est-à-dire que nous, en tant que soignants, on rencontre aussi les personnes et on fait des belles rencontres. Et en fait, avant de rencontrer une personne, nous, on ne lit pas les dossiers. En fait, c'est une volonté dans notre équipe, c'est de rencontrer la personne avec ce qu'elle souhaite apporter. Et puis, nous, ça nous permet aussi d'être assez neutre. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre d'abord une personne, c'est un individu avec sa singularité. C'est un temps qui permet justement de ne pas aller que à l'essentiel. Il est essentiel, mais il permet de ne pas aller qu'à l'essentiel, c'est ça que je voulais dire. Et puis aussi de considérer que la personne, elle a déjà une expérience, elle a un vécu. Dans l'accompagnement qu'on va faire, notamment autour de l'éducation thérapeutique, on va partir de ce vécu, des expériences. Ça, nous, on n'a pas cette expérience-là, donc en fait, on l'accompagne. Et ça nous met dans une position, en tout cas, ouais, de pas de sachant, mais de ceux qui sont là pour accompagner dans un parcours de soins. À un moment donné.
C'est très enrichissant, mais il faut être vraiment proactif. Faut être rendu à une étape de son soin et être prêt à vouloir se rétablir totalement. C'est de longue haleine. J'ai commencé à être suivie il y a maintenant 17 ans. Et j'ai mis énormément de temps avant d'accepter ma maladie et d'avoir besoin de soins. On ne se rétablit pas en claquant des doigts quand on a une maladie psychique. Mais moi, ça m'a permis au jour d'aujourd'hui de retourner vers un emploi. Surtout l'atelier estime de soi, ça m'a permis de refranchir des caps.
Et donc pareil, d'identifier mes ressources, ça me donne confiance. Mais c'est aussi quelque chose que je m'offre de venir ici, quoi.
L'unité Espoir accompagne donc des patients et des patientes à construire un projet de vie épanouissant. Et pour ça, il faut aussi prendre en compte l'ensemble de leur environnement social, affectif
et familial.
Et moi, j'ai eu une séance avec Linda, avec mes deux fils. J'ai deux fils qui m'ont vu dans des états un peu pas possibles, voilà, à la maison. Mes enfants ont pu appréhender ce qu'était la bipolarité. Ils comprennent mieux maintenant ce qui m'arrive. Et je peux maintenant plus les prévenir également. On leur dit, bon, bah, attention, là, les garçons, aujourd'hui, je suis pas forcément bien. Enfin, bon, voilà, ils savent. Ils comprennent et ils savent que parfois, je peux avoir des comportements ou des attitudes. C'est encore la pathologie qui parle, c'est pas forcément moi.
Moi, c'était ma femme qui était là et ça lui a permis de mieux comprendre et de savoir comment communiquer, en fait. Et je trouve que cet atelier sur la famille, c'est important. Quand ça touche aussi les personnes qui sont autour, les aidants.
Ça dédramatise la pathologie psychiatrique et ça nous rend plus humains, je pense.
Sarah, Perrine, toutes les deux. Sarah, vous êtes infirmière, Perrine, psychologue. Deux métiers différents mais complémentaires. Et notamment lorsque vous proposez des soins en collectif. Parce que, paraît-il, le collectif soigne.
Et oui, effectivement, en participant à un groupe thérapeutique, c'est souvent la première fois que des personnes concernées s'expriment sur la maladie. On a par exemple pu entendre...
Les échanges entre participants sont riches et m'aident à prendre du recul.
Le groupe permet également de rompre l'isolement. Souvent, on nous dit...
Ça me fait du bien de voir que je ne suis pas seule.
C'est aussi l'occasion de s'identifier à l'autre autour d'un vécu commun, se sentir compris et prendre conscience de ce qu'il se passe pour soi.
Le groupe m'a permis de me questionner sur mes hallucinations.
Le collectif transforme les représentations sur le trouble pour ne plus en faire un frein. Certains expriment en début de parcours...
N'être qu'une boule de maladie.
Et d'autres considèrent qu'ils sont...
Un petit truc en plus.
Parfois, des propos font écho.
Certains témoignages me font réfléchir à celle que j'ai envie de devenir, plutôt que de cultiver la nostalgie de celle que j'étais avant.
L'entourage est partie prenante du processus de rétablissement.
Les échanges sont aidants pour les parents que nous sommes, parfois démunis. Grâce à cet accompagnement, nous avons pu communiquer autrement en famille.
La dynamique d'un groupe nous met en mouvement. On nous rapporte.
Je suis moins dure envers moi-même. Mes expériences restent une force. Je me sens à nouveau un individu à part entière, digne et dans ma normalité. Mon objectif de vivre encore mieux avec mon trouble est atteint.
Bienvenue chez Georges.
Les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Vous êtes chez Georges, dans l'unité Espoir du centre hospitalier Georges Domaison. En compagnie de Ambra Sénatoré, qui est danseuse et chorégraphe. Maintenant, c'est l'heure d'une interview inversée. Vous allez pouvoir, vous, Ambra Sénatoré, nous poser des questions à nous, les patients et les soignants. Vous êtes prête ?
Alors, je suis prête. Je ne sais pas si j'ai les bonnes questions.
C'est pas grave. Bah,
y en a... J'ai des questions qui sont intimes, mais je ne sais pas si ça peut...
Allez-y.
C'est par exemple, par rapport aux étapes et la présence du coup, des autres, que ce soit les proches, la famille, c'est... Ça m'intéresse comment vous avez pu engager des personnes proches dans les étapes qui vous ont concerné dans votre parcours de patient.
Alors justement, c'est un sujet hyper important, les proches, parce que c'est possiblement eux qui vont repérer des symptômes. En fait, nous, quand on va être, en tant que patient, dans une période de crise, on ne va pas forcément s'apercevoir... Bah, qu'on part en fait, qu'on crise. Et bah, ce sont nos proches, avec l'apprentissage, qui vont nous dire bah, « Là, attention, tu commences à faire des listes partout. » Enfin voilà, c'est pour ma part. Mais voilà, les proches ont vraiment une superbe importance. Et quand on a la chance d'en avoir, qui sont très compréhensifs, pour moi, c'est essentiel pour vivre avec la maladie.
Alors pour moi, il y a des proches qui sont très proches, qui aident beaucoup. Enfin, pour ma part, j'ai ma mère qui m'aide énormément, qui me soutient. Ces proches-là, ça leur fait un point en plus, quand même, ça les ralentit dans leur vie. Il y en a plein qui finissent par tomber en dépression, donc c'est conséquent. Et il y en a d'autres, bah, ils supportent pas forcément la maladie ou les problèmes, et ils sont plus à s'en éloigner, donc on se sent parfois éloigné de certaines personnes de nos familles. Alors, moi, je sais que j'ai cette chance d'avoir au moins ma mère, parce que dans les groupes thérapeutiques qu'on a échangés, il y en a, c'est plutôt le désert, donc voilà. Enfin, moi, j'ai de la chance.
Moi, en ce qui me concerne, ça a plus été avec mes enfants, en fait. Pouvoir, en fait, vivre avec la maladie tout en n'essayant, alors c'est un peu hypothétique de dire ça, mais